Élégie 16. Je suis à Sulmone, troisième canton du territoire des Pélignans. Ce canton est petit, mais on y respire un air pur, grâce aux 1000 ruisseaux qu'on y voit serpenter, quoique les rayons plus rapprochés du soleil y fendent la terre, quoiqu'on y sente les ardeurs de la brûlante constellation de la chienne d'Icarus. Les champs péliniens sont arrosés par des ondes limpides et un sol tapissé d'un tendre gazon y séconde la végétation. Le pays est fertile en blé, plus fertile encore en raisin. Quelques chlorares y produisent aussi l'amande, chère à Pallas. Les ruisseaux qui courent au milieu des herbes toujours nouvelles couvrent cette terre ainsi rafraîchie d'un épais tapis de verdure. Mais là ne se trouve point mon amour. Je me trompe d'un mot. Là ne se trouve point l'objet de mon amour. Mon amour seul s'y trouve. Non, ma place fut-elle entre Castor et Pollux. Sans toi, je ne voudrais point habiter le ciel. Que la mort soit cruelle et la terre présente à ceux qui ont entrepris de longs voyages pour parcourir l'univers, ou bien ils devaient rejoindre aux jeunes beautés de les accompagner. S'il fallait que l'on sillonnât ainsi, terre de route sans fin. Non, ma place fut-elle entre Castor et Pollux, sans toi je ne voudrais point habiter le ciel. Que la mort soit cruelle et la terre pesante à ceux qui ont entrepris de longs voyages pour parcourir l'univers, ou bien ils devaient en conjoindre aux jeunes beautés de les accompagner, il fallait que l'on sillonnât aussi la terre de route sans fin. Pour moi, dussé-je parcourir en frissonnant les Alpes battues par les vents, ce voyage pénible consemblerait doux avec ma maîtresse. Avec ma maîtresse, j'oserais affronter les Sirtes de la Libye et le mer une voile à conduire au Notus ennemi. Et vous, monstre qui aboyez dans les flancs de la Vierge Seyla, et toi, sinueux mallet, aux gorges périlleuses, j'oserais vous braver, et vous aussi, onde que vomit et engloutit, tour à tour, caribe de gorge et de vaisseau, submergé. Que si Neptune est vaincu par les vents déchaînés, si l'on entraîne nos dieux tutélaires, attache à mes épaules tes bras éblouissants de blancheur, je porterai facilement un aussi doux fardeau. Souvent, pour aller voir Héro, son jeune amant avait franchi les flots, les nuages. Il n'y eut point péril si l'obscurité ne lui avait caché sa route. Hélas, sans toi, j'ai beau parcourir des champs couverts de riches vignobles, des plaines partout baignées par des fleuves limpides, en vain le laboureur appelle dans ses ruisseaux l'onde obéissante, en vain un vent frais caresse la feuille des arbres. Je ne crois point habiter le salubre pays de Pélignan. Je ne m'y crois point dans le domaine de mes pères, dans les lieux qui m'ont vu naître, mais plutôt dans la City, chez les farouches Siciliens, chez le Breton au visage verdâtre ou bien au milieu des rochers qu'a rougi le sang de Prométhée. L'ormeau aime la vigne ne quitte point l'ormeau. Pourquoi suis-je si souvent séparé de ma maîtresse? Tu m'avais promis pourtant d'être ma fidèle compagne. Tu me l'avais juré, et par moi-même, et par tes yeux, mes astres tutélaires. La promesse de ta beauté, plus légère que la feuille qui tombe, s'envole toujours au gré des zéphyrs et des eaux. Si cependant tu es encore sensible à mon délaissement, commence à tenir tes promesses. Hâte-toi de livrer aux courses rapides ta litière légère, et secoue toi-même les rennes sur leurs crinières flottantes. Et vous, bons orgueilleux, inclinez-vous sur son passage et ouvrez-lui un chemin facile, au milieu de vos sinueuses vallées. Élégie 17. S'il est quelqu'un qui regarde comme une honte d'être l'esclave d'une belle, j'aurai, à ses jugements, à rougir de cette honte-là. Que je sois donc infâme, pourvu que je sois moins cruellement traité par la déesse qui règne à Paphos et les filles de Cythère. Et plutôt ciel que je fusse devenu l'esclave d'une maîtresse sensible, puisque j'étais né pour être l'esclave d'une belle. La beauté donne de l'orgueil. La beauté de Corinne la rend intraitable. Hélas, pourquoi se connaît-elle si bien? C'est dans les reflets de son miroir qu'elle puise sa fierté. Encore de s'y regarde-t-elle qu'après avoir disposé ses ajustements. Si ta beauté, trop bien faite pour enchanter mes yeux, t'assure un empire sans borne sur tous les cœurs, je ne dois pourtant pas, en me comparant à votre loi, me traiter avec mépris. L'infériorité peut s'unir à la grandeur. La nymphe Calypso, éprise d'amour pour un mortel, le retint, dit-on, malgré lui, pour en faire son époux. Une des Néréides, on le sait, eut commerce avec le roi de Phthie. Égérie avec le juste Numa, Vénus avec Vulcain, tout sale et tout boiteux qu'il est quand il quitte son enclume. Ses vers sont de grandeur inégale, et cependant le vers héroïque se marie très bien avec un vers plus court. Toi aussi, ô mon âme, accueille-moi à quelque condition que ce soit, et que du haut de ta couche, il te plaise de me dicter des lois. Jamais tu ne me verras t'accuser ni me venger de ta disgrâce, et tu m'auras point à désavouer notre amour. Que mes vers heureux me tiennent lieu auprès de toi, de grandes richesses. Il est bien des belles qui veulent me devoir la célébrité de leur nom. J'en sais une qui partout se fit passer pour Corinne. Pour le devenir, que ne voudrait-elle pas avoir donné? Mais comme on ne voit point couler dans un même lit le frais heureux tasse et le pot ombragé le peuplier, de même nul autre que toi ne sera chanté dans mes vers. À toi seul, il sera donné d'inspirer mon génie. Élégie 18. Tandis que tu peins dans ces chants la colère d'Achille et remets de leurs premières armes les princes que dit leur serment, moi, ma sœur, je me repose à l'ombre de l'indolente Vénus, et le tendre amour vient d'arrêter les sorts audacieux de mon génie. Plus d'une fois, j'ai dit à ma maîtresse, « C'en est assez, retire-toi. » Et je la vis alors s'asseoir sur mes genoux. Souvent, je lui ai dit, « J'en ai de la honte. » Et retenant à peine ses larmes, elle s'écriait aussitôt, « Que je suis malheureuse, déjà tu rougis de m'aimer. » Alors, jetant ses bras autour de mon cou, elle me donnait 1000 baisers, de ces baisers qui font ma perte. Je suis vaincu. Mon esprit ne songe plus au combat que j'allais chanter. Mes exploits domestiques et mes guerres privées, voilà désormais le sujet de mes chants. Cependant, je m'étais armé du sceptre. Mon goût pour la tragédie s'était accru. Je me sentais propre à fournir cette carrière. L'amour se prit à rire à la vue de mon noble manteau, de mon cothurne peint et du sceptre que portaient si bien des mains pour lesquelles il n'est pas fait. L'ascendant d'une maîtresse impérieuse vint encore m'arracher à ce travail, et le poète en cothurne est vaincu par amour. Puisque c'est là tout ce qui m'est permis, je professe maintenant l'art du tendre amour, et je suis hélas la première victime de mes préceptes. Où je retrace une lettre de Pénélope à Ulysse, où je peins les larmes de Phyllis abandonnée, j'écris à Paris et à Macrae, à l'ingrat Jason, au père d'Hippolyte et à Hippolyte lui-même. Je répète les plaintes de l'infortuné Didon, la main déjà armée de son épée nue, et les regrets de l'héroïne de Lesbos, armée de la lyre d'Éoli. Avec quelle vitesse mon ami Sabinus a parcouru le monde et rapporté de 1000 pays divers les réponses à ses lettres. La chaste Pénélope a reconnu le sceau d'Ulysse. La lettre d'Hippolyte a été lue par sa maîtresse. Déjà le pieux aîné a répondu à la malheureuse Hélénise, et Phyllis a maintenant reçu une réponse, si toutefois Phyllis vit encore. La lettre fatale de Jason est parvenue à Hypsipyle, et Sappho, chérie d'Apollon, n'a plus qu'à déposer à ses pieds la lyre qu'elle lui a consacrée. Mais toi aussi, Mater, poète inspiré, qui chante les combats sous les tentes même de Mars, tu as parlé de l'amour. Je vois Paris et cet adultère que sa faute a rendu si célèbre, et la Odamie accompagnant son époux qui n'est plus. Si je ne me trompe, tu traites ces sujets aussi volontiers que les combats, et de ton camp, tu passes souvent dans le mien. Élégie 19. Insensé, si ce n'est pas pour toi que tu surveilles ta femme, surveille-la au moins pour moi, afin de me la faire désirer davantage. Ce qui est permis n'a pour nous aucun prix, ce qui ne l'est pas ne fait qu'irriter notre passion. Celui-là possède un courage de fer qui aime ce qu'un autre lui permet d'aimer. Quant à nous, autres amants, nous devons toujours flotter entre l'espérance et la crainte, et pour désirer plus vivement, avoir à essuyer quelques refus. Que me fait la fortune si elle ne peut jamais tromper mon espérance? Je serai aimé, ce qui doit à jamais me préserver des tourments. La rusée Corinne avait bien vu que c'était là mon faible. Elle savait trop bien par où l'on peut me prendre. Ah, combien de fois je l'ai vue, feignant, sans en souffrir, de violentes douleurs de tête, m'éconduire et me forcer à m'éloigner à pas lents. Que de fois elle m'a supposé des torts, et coupable elle-même, a-t-elle joué l'innocente, après m'avoir aussi causé bien des tourments, et ranimait mes feux presque éteints, elle redevenait douce et sensible à mes vœux. Quelle caresse, quelle douce parole elle me prodiguait alors, des baisers, grand Dieu, des brûlants baisers, combien alors elle ne m'en donnait-elle pas? Toi aussi, dont la beauté vient charmer mes yeux, aie souvent recours à la ruse. Sois souvent sourde à mes prières. Laisse-moi souffrir, couché sur le seuil de ta porte, le froid piquant d'une longue nuit d'hiver. Mon amour en a de durée et n'acquiert de force qu'à ce prix. Voilà ce qu'il me faut. Voilà l'aliment qui convient à ma flamme. De tranquilles et trop faciles amours me deviennent insipides. Ils sont pour mon cœur ce qu'est un maître fade. Si une tour d'airain n'est jamais renfermée Danaé, Jupiter ne l'eût point rendu mère. Junon, en faisant surveiller le loup Io au front ombragé de cornes, lui donna aux yeux de Jupiter plus de grâce qu'elle n'en avait auparavant. Que celui qui se contente de plaisirs faciles est permis à tous à y cueillir la feuille sur les arbres, épuiser l'eau dans le milieu du fleuve, que la beauté qui veut s'assurer un long empire sache tromper son mari, son amant. Hélas, pourquoi faut-il que je donne des leçons contre moi-même? Aime qui voudra une complaisance sans borne. Elle m'est à charge. Je fuis ce qui s'attache à mes pas, et je m'attache aux pas de ce qui me fuit. Toi donc qui es si tranquille sur la fidélité, la belle campagne, commence aujourd'hui à fermer ta maison, dès la chute du jour. Commence à demander qui vient tant de fois frapper furtivement au seuil de ta porte, ce qui fait aboyer des chiens dans le silence de la nuit. Quels sont les billets que porte et rapporte une adorate servante? Et pourquoi ta femme te refuse si souvent la moitié de sa couche? Laisse enfin les soucis rongeurs pénétrer parfois jusqu'à la moelle de tes os, et donne-moi sujet d'avoir recours à la ruse. Celui-là est fait pour voler le sable des rivages déserts, qui peut aimer la femme d'un sot. Et déjà, je t'en préviens, si tu ne commences à surveiller la tienne, elle ne tardera pas à cesser d'être ma maîtresse. J'ai longtemps souffert. J'espérais qu'un temps viendrait où, gardien plus vigilant, tu me rendrais ainsi plus rusé. Mais tu demeures tranquille et tu souffres ce que ne souffrirait aucun mari. Eh bien, c'est moi qui mettrai fin à un amour que tu permets. Malheureux, je ne me verrai donc jamais interdire l'entrée de ta demeure. Je n'aurai donc jamais, pendant mes nuits, un bras vengeur à redouter. Quoi, je n'aurai rien à craindre? Je ne pousserai pas un soupir d'effroi dans mon sommeil? Quoi, tu ne feras rien pour que je désire la mort? Mais qu'ai-je besoin d'un mari complaisant, d'un mari qui prostitue sa femme? Ta coupable indifférence empoisonne mes plaisirs. Que n'en cherches-tu un autre qui s'accommode d'une aussi grande patience? Si tu veux que je sois ton rival, défends-moi de l'être.